J'étais surpris juste pour engager l'échange de l'opposition des Lumières radicales à Adam Smith.
Oui.
Quel est sur quoi précisément ça porte? Parce qu'il est son
Oh,
libéralisme
bah,
un peu ce problème.
mais
Hein.
disons, alors, j'en ai parlé dans le cadre de ce que de la lecture qu'en fait Jonathan Israel. Hein. Et Jonathan Israel pose que les lumières radicales sont éminemment sociales et il dit pas communiste, mais enfin pour la mise en commun, quoi. Or, ça colle pas. Il faut être honnête. Il y a des auteurs dans les Lumières radicales qui sont tout à fait dans cette perspective d'une voilà, d'une ouverture sociale, d'une communauté des biens pratiquement. Enfin, bon, à la Karl Marx. Mais il y en a aussi qui sont des adeptes, voilà, des privilèges. Hein, il faut pas rêver. Je veux dire, le grand problème de cette thèse de Jonathan Israel, c'est la dimension monolithique qu'elle pose. Moi, c'est ça mon reproche principal. C'est vraiment des lumières monolithiques avec, comme on dit dans les Cévennes, une patte d'oie, hein, les lumières radicales, les lumières modérées, et puis faites votre choix. Et puis ça colle pas à la réalité. Enfin, aujourd'hui, même aujourd'hui, si vous voulez, dans les représentations du monde que l'on se fait, c'est jamais noir et blanc. Enfin, peut-être, mais je veux dire, il y a des choses où on est d'accord avec un tel, pas d'accord avec lui sur d'autres, etc. Et pendant les Lumières, c'est pareil. Alors, bien évidemment, ce qu'il reproche à Adam Smith, Israël, via ses Lumières radicales, c'est pas totalement faux, c'est l'idée d'une économie qui serait, au fond, conduite par la fameuse main invisible. Parce que ça, c'est encore du religieux, puis c'est pas possible. Et la critique que fait, bien sûr, Israël, c'est une critique voilà, de gauche, tout à fait légitime en soi, mais il l'a fait par le biais de l'histoire, et c'est là que c'est moins légitime, à mon avis. C'est que, au fond, tout notre système économique repose sur une croyance. C'est pas bien. C'est pour ça que ça ne tient pas. Je pense que c'est ça l'idée qui est derrière. Hein. Il s'en exprime un petit peu là-dessus.
La croyance qu'à un moment le marché se régule,
Voilà,
voilà,
mais c'est
les
cette
choses,
idée,
l'équilibre se crée. Ouais.
oui, c'est cette idée qu'on trouve dans l'essai sur la prospérité des nations, je crois, le titre exact du texte d'Adam Smith. Mais bon, qui est très débattu. Hein. Là aussi, même Adam Smith, c'est tout aussi compliqué que de lire Bayle, Rousseau ou Lessing. Hein. Il y a différentes écoles qui disent Adam Smith, historiquement parlant, je ne dis même pas sur le plan économique aujourd'hui. Très vraisemblablement que pour Adam Smith, cette idée, c'est que c'est au fond la conviction que les gens ont que c'est régulé par la main de Dieu qui fait que les gens vont faire en sorte que ça se régule. Bon. En gros, hein. Mais je ne suis pas du tout un spécialiste d'Adam Smith, donc je ne voudrais pas commencer, je l'ai lu, mais je ne voudrais surtout pas commencer à en donner une lecture trop arrêtée, parce que je suis compétent sur cette question. Mais là aussi, voilà, c'est le discriminant religieux qui lui pose problème à Jonathan Israel, avec justement cette idée que Adam Smith, quoi, il est encore tenant d'un ordre providentiel. Et c'est vrai qu'à certains égards, vous retrouvez ça dans la théorie de Binoche, hein, aussi des Lumières, croire à la Providence, c'est pas être du côté des Lumières. Les Lumières, elles rejettent l'idée de Providence. Donc, l'idée qu'il y a une main invisible qui guide le marché, c'est encore la Providence, c'est encore la vieille école, c'est encore pardonnez-moi, une ressucée du christianisme, et donc il faut mettre ça de côté. Mais ça, ce n'est pas une lecture historique. C'est tout le problème que nous affrontons actuellement, je dirais, nous, les autres historiens des Lumières, c'est que très régulièrement, la lecture des Lumières qui est proposée par des historiens, elle est en partie idéologique, parce que c'est un sujet qui nous, voilà, qui nous concerne encore, qui nous touche.
Émile, tu avais une question, je crois. Non, ton micro est pas activé, attention.
Voilà,
Voilà, c'est bon.
m'entendez là?
Oui.
Merci.
Non.
Ton
Ah,
micro est
le micro est
recoupé,
à nouveau
Émile.
coupé.
C'est bon.
Ma question est la suivante. Dans le monde libéral juif, quel apport toutes ces réflexions ont pu permettre la création du mouvement libéral que je distingue par rapport au mouvement réformateur qui existe aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du judaïsme, hein, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il est indéniable que vous avez des lumières juives. Un exemple que je connais un peu, c'est Moïse Mendelssohn, hein, le grand-père du compositeur, qui est juif. Son petit-fils se convertit au protestantisme, mais lui est juif, Mendelssohn. C'est un des grands philosophes des Lumières. Et vous avez en particulier un de ses essais qui existe en français, dont le titre m'échappe, oh, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, sur la question du rapport du judaïsme aux Lumières. S'appelle Jérusalem. Ah, oh, ça me revient, je dois l'avoir par là en plus. Ah, voilà. Voilà. Jérusalem ou le pouvoir religieux et le judaïsme. Hein, c'est tout à fait. Je vous invite, c'est dans la collection Tell, hein, chez Gallimard. Ça, si ça vous intéresse, lisez-le. Hein, c'est un texte absolument passionnant. On aurait pu en parler d'ailleurs dans ce cadre. Il reprend au fond dans ce texte tout ce que je viens de vous dire sur, en particulier les textes de. Peut-être pas de Bayle, mais de Locke, de Hobbes, sur, au fond, les rapports entre le religieux et le politique du point de vue du judaïsme. Et son objectif, c'est que si on veut que l'esprit des Lumières, c'est au fond un peu l'inverse en même temps, si on veut que l'esprit des Lumières se répandent dans le peuple, on est obligé de le persuader et non de le contraindre. Héritage bélien, hein, donc, parce que la question religieuse, c'est la sincérité. La base du religieux, c'est la subjectivité, la sincérité. Donc si on tient compte de ça, on ne peut pas le contraindre. L'arrière-plan, si vous voulez, de Mendelssohn, qui travaille à Berlin, c'est l'approche un peu autoritaire de la monarchie prussienne, hein, Frédéric II, roi philosophe, qui veut imposer la modernisation des Lumières à marche forcée. Et ce que Mendelssohn dit, c'est il faut faire attention parce que ça pourrait desservir les Lumières. Donc si on veut que les Lumières progressent, il faut persuader les gens de leur vérité, ou en tout cas, disons, de leur validité sur le plan intellectuel. Et ça suppose de persuader les gens. Or, persuader les gens, c'est forcément collaborer avec le religieux. Et collaborer avec le religieux, c'est d'autant plus évident que la religion, ce n'est qu'affaire de persuasion. Le message biblique, c'est quelque chose qui est parfaitement orienté vers la persuasion et non pas vers la démonstration ou la preuve. Là, c'est l'héritage de Spinoza, hein, qui renaît. Vous voyez, deuxième, ce qui n'est pas surprenant chez un philosophe juif qui s'inspire d'un autre philosophe juif. Donc, c'est à la fois donc Mendelssohn, cette idée que il faut faire attention à un truc qui est en train de s'imposer, qui est le despotisme éclairé. À la Frédéric II, à la Catherine II de Russie, donc derrière, c'est des gens comme Voltaire, comme Diderot, hein, et Mendelssohn, qui est un juif convaincu, lui, son idée, c'est de dire attention, on est en train là de prendre un biais qui est dangereux. Et donc, il faut valoriser le contrat social, il reprend cette idée, hein, aussi, ou ce concept, d'un point de vue religieuse, en montrant aux religieux que précisément la vraie religion, c'est celle qui ne contraint pas. Vous voyez, donc c'est un jeu, un travail à double entrée chez Mendelssohn, et qui est fondateur, je crois, enfin, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais qui est fondateur du libéralisme au sein du judaïsme. C'est un des grands philosophes de la fin du XVIIIe, et qui était d'ailleurs très proche d'un autre philosophe dont j'avais parlé l'année passée, mais on ne peut pas parler de tout le monde, qui est Lessing, le grand philosophe d'origine protestante. Hein, ils étaient très amis. Voilà, quelques mots rapides.
Merci
donc,
beaucoup.
C'est un mouvement qui ensuite se met en route, bien évidemment, mais qui n'est pas le même, vous avez raison, que le mouvement réformateur dont vous parlez. Voilà, enfin, je crois que l'idée, en tout cas, que j'aimerais faire passer, et qui est une conviction historique, hein, pour le coup, c'est que les Lumières, ça n'est pas une opposition drastique à la religion, mais au fond, une volonté de repenser le religieux. Et c'est ce que fait Rousseau, par exemple. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Mais en Rousseau, en deux mots, c'est la relecture du christianisme à la lumière de ce qu'on trouve chez Bayle, chez Spinoza et chez d'autres auteurs. C'est-à-dire d'une mise à l'écart du surnaturel, du transcendant, pour le dire comme ça, pour avoir une interprétation intériorisée et individualisée du christianisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que Rousseau, les gens comme Israël ne l'aiment pas du tout, parce qu'il est dans les Lumières et en même temps il est encore, selon lui, dans le christianisme. Sauf que le problème, c'est que la fameuse révolution française dont Israël aimerait montrer qu'elle est inspirée des Lumières radicales, bah, cette fameuse révolution, elle a quand même mis Rousseau au Panthéon. Donc, et Rousseau qui disait encore quelques années avant sa mort, je suis protestant de la religion de Calvin et je le resterai. Donc c'est une écharde historique dans le pied de cette image un peu, je pense, véritablement historiquement erronée de lumière opposée aux religieux. Mais il est indéniable que les lumières vont induire au sein du christianisme et du judaïsme aussi d'ailleurs une scission qui n'est toujours pas achevée, hein, enfin qui n'est toujours pas résorbée, à savoir d'un côté les tenants des Lumières, et voilà, qui considèrent qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'héritage des Lumières pour la pensée chrétienne, et que donc il faut repenser le christianisme en fonction des Lumières. Et vous avez des lumières protestantes au XVIIIe siècle, pardon, des lumières catholiques, des lumières juives. Et puis, ceux qui diront, au sein de ces religions, de ces confessions, nous rejetons les lumières, nous en restons à la vision pré-lumière. Et aujourd'hui, là, je change de casquette, hein, je reprends ma casquette d'enseignant dans une faculté de théologie protestante. Un des gros soucis face auxquels nous sommes confrontés dans le protestantisme, mais c'est valable du catholicisme, c'est valable du judaïsme, etc., c'est la très forte prévalence sur le plan intellectuel, hein, d'une vision pré-lumière, au fond, ou qui se définit telle, parce qu'en fait, elle ne l'est pas. Elle n'est pas pré-lumière, elle n'est pas pré-moderne, puisqu'elle réagit forcément aux lumières, elle est forcément post-lumière, si vous voulez. Donc, c'est déjà une entourloupe, à mon sens. Ce débat, il existe encore aujourd'hui. C'est pour ça que bien comprendre sur le plan historique ce que sont les Lumières, c'est fondamental aussi pour ne pas leur faire dire tout et n'importe quoi, parce que ceux qui vous expliquent qu'il ne faut pas faire l'aggiornamento du christianisme, c'est ceux qui vous, précisément, vont aller s'abreuver aux thèses des Lumières radicales et antireligieuses. Ben, non. Et donc, voilà, c'est le conflit qui est à l'issue de ça. Or, je crois, en tant qu'acteur modestement d'une religion, en l'occurrence le christianisme de tradition protestante, au contraire, qu'on ne peut pas faire l'impasse sur les Lumières. C'est totalement ridicule. Donc voilà, C'est cet élément-là que, sur lequel je voulais insister comme, sur le plan historique, c'est sur la diversité de ce phénomène que sont les Lumières et sur le fait que non seulement elles n'ont pas été critiques, ou disons, elles n'ont pas été anti-religieuses, mais qu'en plus, elles ont fait des émules dans les religions. On parlait de Mendelssohn, c'est un exemple, Rousseau en est un autre.
Juste une question, si vous me permettez. Je crains de ne pas avoir tout saisi sur l'influence historique, objective, si tant est que ça soit possible, des Lumières sur la Révolution française. Est-ce que la Révolution française est la fille des Lumières modérées ou des Lumières radicales?
Ben, c'est un sujet qui aujourd'hui encore est débattu parmi les historiens. On ne peut pas envisager la chose de manière monolithique. Parce que vous avez peut-être des auteurs qui sont pris au sérieux par les révolutionnaires qui sont des radicaux, D'Holbach, Helvétius, etc. Mais vous avez aussi des auteurs, et encore plus, qui sont rattachés par Israël aux Lumières modérées, à commencer par Voltaire et Rousseau, quand même les deux panthéonisés. Hein. Alors, permettez un petit incise, moi j'ai toujours trouvé grotesque qu'on les mette les deux face à face au Panthéon alors que les deux hommes se détestaient. Là aussi, vous voyez, cette catégorisation lumière radicale, lumière modérée, elle ne fonctionne pas si vous prenez ces deux bons hommes, parce qu'ils se haïssaient profondément, mais profondément.
Où est-ce que vous classez Diderot?
Alors, Diderot, alors moi je classe pas, justement, j'essaye d'éviter de classer, mais Jonathan Israel, lui, aurait tendance à classer Diderot chez les radicaux. Parce que Diderot, bah, il est athée quand même, hein. Mais voyez, Diderot, c'est un athée, mais il est très proche de Rousseau, qui est son ami. Donc, et ils partagent une communauté de vues sur tout un tas de sujets. Ils vont se brouiller à un moment donné. Et donc, c'est d'ailleurs en allant rendre visite à Diderot, qui est en prison au château de Vincennes, en 1754, que, non, 47, je vous dis des bêtises, que Rousseau a sa fameuse illumination de Vincennes, où il voit défiler toute l'histoire de l'humanité et qui va développer ensuite sa philosophie politique. Donc, il y a une proximité entre tous ces gens, mais en même temps des divergences. Et donc, vouloir les classer comme ça avec des étiquettes, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors après, sur la question de la Révolution française et de ses origines intellectuelles, bah, attendez, une seconde, je vous invite à lire un livre qui est paru l'an dernier et qui est vraiment lui aussi très intéressant. Mais là, je vous promets, il n'y a pas de religion, donc c'est que du politique. Et ça peut vous intéresser. C'est celui-ci, d'Edmond Dzembowski, Le siècle des religions. Il est professeur à l'Université de Franche-Comté.
Des
Il a été
révolutions, le
couronné,
signe
je
des
crois,
révolutions.
par l'Académie française récemment, ou une autre académie, peut-être l'Académie des sciences morales et politiques. Et qui part de la Révolution anglaise pour montrer comment le concept de révolution évolue au cours du XVIIIe siècle pour aboutir finalement à la Révolution française. Et ce qui est frappant,
Pardonnez-moi,
c'est
docteur.
un texte, c'est une lecture principalement des événements et de la lecture que font les gens des événements. Et au fond, sa théorie, que je trouve intéressante, c'est de dire au fond, la Révolution française, ben, elle advient parce qu'elle doit advenir. Mais vous avez une situation tout aussi explosive en Angleterre au même moment et il n'y a pas de révolution. Donc, comment? Alors que l'Angleterre a eu sa révolution précédemment. Et ben, sa thèse, c'est de montrer qu'il y a un contexte français qui fait qu'il y a cette révolution. Mais aussi, et c'est là que je voulais en venir, que les idées des Lumières qui ont été ensuite appliquées par les révolutionnaires, ça n'est que dans un deuxième temps que ça advient. C'est-à-dire que les idées n'ont pas eu beaucoup de rôle à jouer dans l'émergence de la Révolution, mais qu'elles sont arrivées après coup. Et c'est un peu l'idée, c'est pour ça que j'aime cette thèse, c'est que c'est un peu l'idée que je défends aussi en vous parlant de Pierre Bayle, c'est-à-dire que c'est une relecture des événements qui tient compte, au fond, de ce qui s'est passé pour essayer de repenser le réel. C'est-à-dire qu'il y a, quand même, les idées jouent un rôle dans l'évolution de l'histoire, mais il n'y a pas que les idées. Il y a aussi des réalités humaines qui font que les idées, elles sont parfois bousculées. Donc oui, il y a une relecture probablement de ce qui se passe au sein de la Révolution française au moyen des outils intellectuels des Lumières, mais qui est très diverse elle aussi. Et vous avez des... Bah, comment... Moi, je m'interroge toujours quand je lis Israël, comment il peut pousser cette thèse aussi loin sans se rendre compte des aberrations parfois que ça provoque. Parce que vous avez des gens parmi les révolutionnaires, regardez, prenons quelques noms comme ça, hein, par exemple, j'ai un trou. Le serment du jeu de paume, aidez-moi s'il vous plaît. Vous avez la réconciliation des trois religieux, et c'est qui? C'est l'abbé Grégoire, c'est... Et puis, rendez le nom du protestant que j'ai oublié. C'est vraiment parfois des trous. Un grand révolutionnaire d'origine protestante, ben, enfin qui est pasteur, quoi. Voilà. Mon Dieu, mais quelle horreur.
Je ne l'ai pas.
En train d'écrire une biographie pour une collection d'histoires que je dirige sur ce brave monsieur. Oh là là. Vous ne voyez pas de qui il peut s'agir? Personne.
Non.
Enfin, mon idée était de vous dire simplement qu'il y a des gens qui s'engagent favorablement dans la Révolution.
Les rabots de Saint-Étienne, voilà.
Et qui sont favorables à la Révolution.
J'ai regardé.
Au nom d'un certain nombre de principes religieux.
Rabot de Saint-Étienne.
Ah, je n'entends plus personne. Vous m'entendez toujours?
Oui.
Oui.
On t'entend bien?
Oui, oui.
Vous avez une question, là, non?
Vous pouvez me rappeler le nom du siècle des révolutions?
Je te l'ai mis sur le chat.
Les révolutionnaires restent des idées... au fond, qui sont influencés par les Lumières, mais plus, si vous voulez, a posteriori. On va aller se servir, ça ne veut pas dire que tous les révolutionnaires n'ont pas une culture philosophique, bien évidemment, mais on va utiliser certaines des idées qui sont présentes dans les Lumières pour interpréter, encore une fois, ce qui est en train de se passer et accompagner le mouvement sur le plan intellectuel. Mais je ne suis pas un spécialiste de la Révolution. Hein. Là, je suis...
Mais dans l'accompagnement, on n'est pas dans la source, on est bien d'accord.
C'est ça.
Il y a Bruno, non?
Il y a un petit point. Il y avait une question de Bruno, c'est ça?
Non.
Un point que je relève, Pierre-Olivier, là, tu disais que globalement...
Rabot-Saint-Étienne, merci. J'ai retrouvé. Rabot-Saint-Étienne, donc qui est pasteur. Hein.
C'est Elisabeth qui l'avait dit, non? C'est ça?
Oui, mais j'ai regardé. Hein. J'avais regardé.
Ah ouais, mais quand même,
plus rapide.
Je t'entends pas, Xavier.
Tu m'entends pas? Allô, Pierre-Olivier? C'est bon?
Oui.
Oui, alors du coup, on ne t'entend plus, mais ça va revenir, je pense. Il y a un moment dans la présentation que tu fais, là, expliquant qu'effectivement, à un moment, la notion de religion est subjective, donc il faut bien trouver un commun qui passe par... la morale, voire une visée éthique, as-tu dit. Alors, il me semblait que ça, c'était un terme labellisé ou réservé chez Lévinas. Déjà, c'est quelque chose qui est présent. Donc, on voit bien que la raison, du coup, émerge, puisque la notion de foi, elle, est subjectivisée. Donc, ce qui est rationnel, enfin, ce qui est objectif, c'est la raison, l'échange dans la raison, et qu'à un moment, il faut bien arriver à se mettre d'accord sur quelque chose. C'est un fond moral et une visée éthique, et donc ça, c'est déjà présent chez Bayle et chez les dans les Lumières de manière forte ensuite.
Alors, chez Bayle, bon là, il faut faire un petit peu de subtilité théologique. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément philosophique, pardon. Bon, c'est encore un peu l'heure pour faire ça, mais c'est-à-dire que chez Bayle, ce qui est premier, c'est ce qu'il appelle la voie de la conscience. Qui me dit justement, ben, qui me pose la question que vous avez qui s'affiche à l'écran. C'est-à-dire que la conscience, ma conscience me permet-elle de dire que ce que j'impose là, au nom de la vérité religieuse, je pourrais l'imposer, je pourrais me le voir imposer. Donc, cet impératif universel, si on veut, du respect de l'humain, pour le dire avec des termes qui sont les nôtres, c'est la conscience qui me l'impose. Et donc, cette conscience, il me faut la suivre. Mais il y a un problème que Bayle va aussi poser, c'est que cette conscience, elle peut aussi m'imposer de suivre des vérités religieuses jusqu'au fanatisme. Hein. Le concept de fanatisme, il existe chez Bayle. Et donc, chez Bayle, ce n'est pas encore tout à fait abouti. C'est-à-dire que ça sera abouti avec Kant, principalement, me semble-t-il, pour qui, au fond, cet impératif de ce que l'on appelle la conscience, c'est un impératif rationnel, moral, c'est l'impératif catégorique. Au fond, il faut distinguer la rationalité morale de l'aspect subjectif, en l'occurrence. Vous voyez, il y a un nouvel étage, c'est la morale et la subjectivité et la religion. Parce que la subjectivité, elle peut servir, bien évidemment, aussi le pire. Ce que il appelle le fanatisme. Enfin, la sincérité de la conscience, ben, peut-être que la conscience de Ben Laden est sincère. Il faut distinguer entre une conscience morale, rationnelle ou raisonnable et une conscience subjective. Et cette distinction, elle n'est pas faite chez Bayle.
D'accord.
Voilà. Ben, merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pierre-Olivier.
Merci.
Merci
pour cette belle conférence.
Merci. Merci infiniment à vous. Merci de votre écoute, de votre patience. Et puis, ben, bonne continuation dans cette formation. J'espère
merci, en bonne année.
Merci à vous aussi. Oui. Bonne année.
Bonne année.